I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, Face à Boc-Côté de 19h à 20h et le sociologue le plus élégant du PAF est déjà en place. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Vous voyez, je commence bien.
Bah, c'est très
bien. Première.
Nous allons vous adopter.
Très bien, merci. Arthur de Vatrigan, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et lui aussi est élégant, il s'appelle Simon Guilin et il vous rappelle les titres de l'actualité. Bonsoir Simon.
Bonsoir cher Gauthier et bonsoir à tous. Les agriculteurs ont levé certains barrages ce week-end, mais promettent de se remobiliser dès lundi. 38 blocages sont toujours en cours sur le territoire et près de 700 agriculteurs risquent donc mobilisés aujourd'hui. Hier, on comptait 113 blocages et 17 500 agriculteurs sur les routes de France. L'enquête se poursuit 4 jours après l'accident qui a coûté la vie à une agricultrice et sa fille. Le conducteur a été mis en examen et placé en détention provisoire. Les 2 autres passagers sont eux sortis du centre de rétention administratif où ils avaient donc été admis. Des mesures sont en cours pour organiser leur éloignement dans les meilleurs délais. Et puis au Moyen-Orient, Israël veut en finir avec l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Cette agence est au cœur de l'aide humanitaire apportée aux habitants à Gaza, mais elle est actuellement prise dans une polémique sur le possible rôle de certains de ses employés dans l'attaque du 7 octobre. Sachez que l'Italie, le Canada, l'Australie ou encore les États-Unis ont déjà suspendu leur aide, cher Gauthier.
A tout à l'heure Simon. Au sommaire de Face à Boc-Côté ce soir, Emmanuel Macron a promulgué sa loi immigration depuis l'Inde où il est en déplacement. Une loi vidée de ses mesures les plus à droite par le Conseil constitutionnel. Ces mesures ne devaient pas se trouver dans ce texte, expliquent les sages de Laurent Fabius. Des dispositions sur l'immigration plébiscitées par une large majorité des Français n'avaient visiblement pas leur place dans un texte sur l'immigration. Allez comprendre. 9 sages contre 80% des Français. La Constitution contre la nation. Premier édito de Mathieu Boc-Côté. Diviser pour mieux régner. Voilà ce qu'a réussi Gabriel Attal avec le mouvement agricole. Certains lèvent les barrages quand d'autres veulent aller bloquer le marché de Rungis qui fournit toute la capitale. Ceux qui poursuivent le mouvement réclament de sortir l'agriculture des traités de libre-échange négociés en ce moment à Bruxelles. La révolte des agriculteurs, une révolte anti-européiste, nous dira Mathieu. Et puis à 19h30, alors que la guerre entre écoles publiques et écoles privées a été relancée par la presse de gauche et la maladresse à répétition de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, vous recevrez Mathieu, Sophie Audugé, présidente de SOS Éducation. Il sera aussi question de l'éducation sexuelle à l'école. Gabriel Attal a annoncé la semaine dernière la mise en place d'un nouveau programme à la rentrée pour enseigner, je cite, « le respect de l'intégrité du corps ». Nous entendrons l'avis de votre invité, ça sera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, votre premier édito, cher Mathieu, je le disais... Ah oui, il y a un générique, j'ai oublié le générique. Générique. Faux départ. Alors, tout de suite... Votre premier édito, Mathieu, la Constitution contre la nation. Je le disais en titre, le Conseil constitutionnel a censuré jeudi la loi immigration. Rares sont ceux qui ont été surpris par cette décision des sages, voulue, j'allais dire même espérée par Emmanuel Macron lui-même. Mmh. Il n'en demeure pas moins que cela provoque une vive colère, surtout à droite. Que retenez-vous de cette séquence, Mathieu ?
Nous voyons désormais de manière très explicite qui a le pouvoir en cette République. C'est-à-dire, nous voyons que les 9 sages, le terme sage me semble peut-être un peu abusif, mais quoi qu'il en soit, les sages ont en dernière instance, sur les questions les plus importantes, le pouvoir de censure, mais plus encore, je crois, ils ont la capacité de modifier les institutions à leur avantage. Alors j'y reviens, on nous a dit, vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, apparemment que on ne devait pas intégrer dans cette loi certaines dimensions touchant à la question de l'immigration parce que ce n'était pas conforme à l'esprit de la loi. Bon, c'est assez. Donc, que nous disent les sages? Que le Parlement n'est plus en droit de modifier un texte sur un sujet généralement admis, la question donc de l'immigration. Le Parlement n'a plus un pouvoir d'amendement véritable des textes. Donc, les sages, le Conseil constitutionnel, nous dit désormais, nous allons définir quels sont les amendements légitime ou non. Alors on nous dit oui, mais le Conseil constitutionnel n'a pas touché au fond des choses, s'est contenté d'une, il a retoqué de manière justement sur une question formelle, mais faut pas se compter l'histoire. Dans les faits, le Conseil constitutionnel a surtout voulu, dans la présente, les présentes circonstances, affirmer qu'il avait le pouvoir et que les parlementaires n'en avaient plus. Et ça, il faut inscrire ça, je crois, dans une logique, enfin une histoire plus ancienne, qui nous ramène au début des années 70, lorsque les sages, encore une fois, mais c'est pas les seuls, ont inventé le bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire lorsqu'ils n'ont cessé d'étendre leur pouvoir dans la Constitution et cessé d'étendre leur pouvoir d'initiative politique, généralement sous le signe de la créativité interprétative dans la Constitution, dans l'interprétation des textes. Donc les juges s'emparent de questions et ne cessent, les juges dans ce cas-là, les sages, ne cessent d'étendre, en fait, mais le Conseil d'État, on pourrait l'ajouter dans le lot, hein. De ce point de vue, Laurent Wauquiez n'avait pas eu tort lorsqu'il parlait des cours suprêmes, donc ne cessent d'étendre leur pouvoir et de congédier ou censurer celui du Parlement, celui des élus plus largement, les pouvoirs qui relèvent de la souveraineté populaire. Et de ce point de vue, même si nous vivons encore sous le signe de la 5e République officiellement, dans les faits, nous sommes déjà en 6e République. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. La 5e République telle qu'elle est devenue ne ressemble plus d'aucune manière à celle pensée, voulue, désirée par le général de Gaulle. Donc, s'il y a une continuité institutionnelle apparente, dans les faits, il y a eu un transfert de souveraineté qui s'est opéré à un tel niveau. Donc, le Parlement, je l'ai dit, vidé de ses pouvoirs. Le président, c'est une forme de présidence monarchique résiduelle, mais qui, dans les faits, pèse de moins en moins vu la tutelle européiste, la tutelle européenne. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a une redistribution du pouvoir dans la 5e République, donc vers les hautes autorités administratives, vers les tribunaux, et dans ce cas-là, vers cette autorité suprême, la nouvelle Cour suprême qui est le Conseil constitutionnel. Eh bien, au final, l'esprit de la 5e République, qui se voulait centrer sur la souveraineté populaire, est tout simplement congédié. La 5e République n'existe plus, et de ce point de vue, ceux qui veulent... Et on pourrait dire à certains égards, hein, le décor institutionnel est encore là, le théâtre institutionnel est encore là, donc il y a les ruines d'institutions devant nous, mais ce sont des ruines qui ne sont plus habitées que par des pantins ou des personnages de comédie secondaire, mieux connus sous le nom de la classe politique. Or, devant cette situation, évidemment, on peut dire, parce que les institutions sont encore là formellement, on pourrait les réinvestir politiquement. Et ça... ce serait effectivement le rôle du référendum. Tous ceux qui en appellent au référendum veulent une chose, en fait, redonner du pouvoir au pouvoir, veulent redonner du pouvoir aux élus, veulent resubstantialiser la souveraineté populaire. Mais pour l'instant, ce dont il est question, tout simplement, c'est qu'un coup de force a eu lieu au fil des décennies. Il n'a jamais été avoué, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'affiche aujourd'hui sans gêne, comme on l'a vu avec la censure de cette loi.
Alors, est-ce pas, malgré tout, important de respecter la Constitution, Mathieu?
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tout dépend de ce qu'on entend par là. C'est-à-dire, une Constitution n'est pas un texte né de je ne sais quelle révélation divine. Une Constitution, c'est un geste politique qui est institutionnalisé durablement, qui fixe les paramètres d'une communauté politique. Mais il arrive qu'une constitution ne soit plus à la hauteur, qu'elle ait fait faillite, qu'elle ne soit plus capable de répondre aux événements. Pour revenir encore une fois au général de Gaulle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la 4e ne fonctionne plus. Il faut un nouveau cadre politique pour répondre aux défis historiques, aux enjeux historiques que rencontrait la France à ce moment. Ben, Marcel Gauchet, on l'a souvent cité sur ce plateau, dit dans un de ses livres récents, il se peut que la question de l'immigration soit à la 5e République, ce que la question de l'Algérie a été à la 4e. C'est-à-dire qu'il est possible que les institutions telles que nous les connaissons aujourd'hui ne soient plus capables de répondre aux questions existentielles pour le peuple français. Et là, on voit, mais non, il y a une forme de fétichisme constitutionnel complètement paralysant qui aujourd'hui domine la pensée politique. Et c'est comme si finalement, on a inversé les principes de base de la philosophie constitutionnelle. C'est-à-dire la Constitution est censée servir son peuple. Quand la Constitution ne fonctionne plus, on la change. Et si on refuse de la changer à tout prix, là, il peut y avoir des tensions. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que non, la Constitution se prend désormais, ou on la prend pour le peuple, elle se substitue à l'identité substantielle d'un peuple, elle se substitue à la culture d'un peuple, elle se désincarne, parce que le génie d'une bonne constitution, normalement, c'est de s'adapter à l'histoire d'un peuple, à sa psychologie politique, à son tempérament. C'est ça, une bonne constitution. Quand la constitution devient une espèce de texte juridique sacralisé, mais désincarné de la vie politique réelle, bien, ça devient une forme de totem. Et on a cette totémisation aujourd'hui, mais qui condamne à l'impuissance collective. Et il y a un autre élément à travers cela, c'est que la Constitution aujourd'hui, elle est sacralisée dans la mesure où elle permet justement de neutraliser le peuple, de le démembrer politiquement, de le condamner à l'impuissance. On dit, et c'est assez fascinant, tous ceux qui disent des principes de notre Constitution, les principes, les fameux principes républicains dont l'évolution, la signification évolue à un point tel qu'il faudrait en fait des espèces de cartomanciens de l'interprétation républicaine pour comprendre leur sens au jour X de l'année Y. Il y a quelque chose d'assez fascinant chez ces théologiens ou ces cartomanciens, vous voyez à quel niveau je les situe, qui prétendent faire parler des principes républicains, mais qui sont jamais capables de les définir minimalement. Donc au final, évidemment qu'il faut respecter une Constitution. Évidemment qu'il faut respecter le droit, mais il faut constater que la Constitution est un geste politique et aujourd'hui, elle ne sert plus à organiser politiquement le peuple français, mais à l'emmailloter, à le neutraliser, à le démembrer.
Alors, Laurent Fabius fait le service après-vente de cette décision. Il a choisi ses médias pour le faire et il défend le Conseil constitutionnel. A-t-il raison de le défendre? Il refuse effectivement qu'on critique la décision du Conseil.
Vous dites qu'il a choisi ses médias. Si je ne me trompe pas, c'est bien, c'est France Inter et La 5, c'est bien
exactement.
Ça? Exactement. Ah ben, je dis ça comme ça. Hein. C'est important de le rappeler. Laurent Fabius, c'est un personnage intéressant dans la séquence présente parce qu'il nous dit « je ne suis que le droit ». Je ne suis que le droit. Ah non, il n'est pas que le droit, le monsieur. Il faut rappeler une chose, ce sont aujourd'hui, alors plusieurs l'ont noté cette semaine, les socialistes ont perdu leurs élections au niveau national, mais contrôlent encore les institutions du pays. Et dans le cas de Laurent Fabius, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit un homme qui nous dit aujourd'hui, mais qui représente bien une caste, qui représente bien cette espèce d'oligarchie politique qui aujourd'hui est présente partout en Europe et qui se réfugie derrière un concept, l'état de droit, mais un état de droit qui a complètement changé de sens. Si l'état de droit, c'est la défense des libertés publiques, on est tous d'accord. Mais l'état de droit, aujourd'hui, ça veut dire, dans les faits, le gouvernement des juges. C'est le gouvernement d'une caste. C'est le gouvernement d'une oligarchie. C'est un gouvernement qui se dissimule derrière le droit pour avoir une pratique politique autoritaire et arbitraire. Et j'insiste sur l'arbitraire. C'est l'arbitraire dans l'interprétation du droit. On dit quelquefois la Constitution, c'est pour nous protéger de l'arbitraire. Non. Leur manière d'interpréter la Constitution relève aujourd'hui du véritable arbitraire. Et ce qu'on voit chez Laurent Fabius, c'est qu'il nous dit désormais la Constitution, l'état de droit tel qu'il le pense, c'est le dernier barrage pour contenir une révolte populaire. Rappelez-vous, au moment de la présidentielle, devant les propositions de Zemmour, quoi qu'on pense de Zemmour, la question n'est pas là, il dit, même s'il faisait un référendum, on pourrait l'en empêcher. On pourrait l'en empêcher s'il le faut. Et là, autrement dit, il faut à tout prix empêcher la volonté populaire de s'exprimer, de prendre forme. Donc, qu'est-ce qu'on voit, en fait? Cette caste se barricade derrière la Constitution, derrière ce qu'ils appellent l'état de droit, dans les faits, parce qu'ils considèrent qu'on est au moment de l'histoire où le peuple est dangereux, le peuple est toxique, le peuple est inquiétant. D'ailleurs, le peuple, ils ne le nomment que populisme. Et devant cela, ils sont prêts à tout sacraliser et à faire preuve du plus grand arbitraire pour empêcher le peuple de s'exprimer. Car si le peuple s'exprimait, la caste pourrait trembler et cela, elle ne le veut pas.
Arthur, votre regard sur cette décision du Conseil constitutionnel qui censure en nous disant, pas sur le fond, mais sur la forme, ces mesures sur l'immigration n'avaient rien à faire dans un texte sur l'immigration.
Évidemment. Déjà que la soi-disant grande loi pour répondre à l'enjeu immense de l'immigration était aussi finalement utile qu'une cuillère en cas d'inondation. Là, les juges, les sages, qui n'ont donc que le surnom évidemment, ont tellement trouvé qu'on a fini avec une fourchette si on regarde tout le texte. Alors on assiste, si vous voulez, à la manifestation rocambolesque du gouvernement des juges que le professeur Rouvillois a brillamment analysé dans son essai du même nom. Et si on regarde sur cette loi-là, les juges ont à la fois prudents et sournois. Prudents, ce que vous l'avez dit, ils ont peu jugé sur le fond. Et sournois, parce qu'ils ont, au nom de questions de procédure bidon, détourné la Constitution de l'intention du constituant. Bon, après, lorsqu'on nomme des juges, quand vous regardez le pédigré, qui connaissent aussi bien le droit que Mathieu maîtrise le pole dance, faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner non plus lorsque...
Quand c'est-il
j'ai des photos.
Comparaison n'est pas raison.
Bon, rien de normal dans une république qui est capable de mettre à la vice-présidence du groupe d'études sur l'antisémitisme, Madame Soudet et les fistes. Voilà, il y a des choses bizarres dans cette république. Évidemment, on peut pas s'étonner. Mais si on revient sur le fond, donc les principales mesures qui ont été supprimées car anticonstitutionnelles, c'est le petit nom pour dire raison idéologique, sont les quotas annuels fixés par les représentants du peuple. Mmh. Alors on vous dit, bah non, en fait, il y a des gens qui vont rentrer chez vous, puis vous n'avez pas votre mot à dire, et si vous pouvez même leur filer les doubles des clés et le chéquier, ça sera mieux. Et l'autre, c'est la suppression du relevé d'empreintes et la prise de photo obligatoire. Alors mon petit Gauthier, maintenant que vous fréquentez le monsieur le président de la République, parce que vous êtes aux premières loges des conférences de presse...
J'ai même pas pu poser de questions.
C'est pas sympa.
Ah oui, c'est pas sympa.
Censure. Il faut qu'on m'éclaire sur un point que j'ai pas compris. Des directives européennes qui ont fixé le droit d'asile ont affirmé que la prise d'empreinte était obligatoire et qu'on pouvait même offrir un petit séjour, tout frais payé en rétention, en cas de refus. Donc, Macron nous dit, il faut toujours dire oui à l'Europe, lui faire des courbettes et lui dire merci, quand bien même les directives vont à l'encontre du droit français au nom de la primauté du droit européen, et là on nous dit non, finalement on ne peut pas le faire. Donc je ne comprends pas grand-chose. Et si vous reprenez les vœux de Laurent Fabius, a dit dans les trois risques de démocratie, un des risques, c'est de ne pas respecter le droit européen. Donc là le droit européen va dans un article qui allait dans le sens de la loi, mais que Fabius a supprimé. Bref, si on s'attaque à la suite, donc la grande majorité des censures ont été justifiées pour des motifs de procédure, donc de forme. Donc pour justifier leur décision, j'aime bien, ils mettent des petits mots, vous savez, des cavaliers législatifs. Donc les cavaliers législatifs, c'est-à-dire des amendements qui n'auraient pas de lien avec le sujet. Par exemple, un amendement qui n'a rien à voir, mais genre vraiment rien à voir avec le sujet de l'immigration, c'est le durcissement du regroupement familial. Ça n'a rien à voir. Ou alors le droit du sol, la fin du droit du sol automatique pour les enfants étrangers nés en France. Pareil, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Donc ça ne serait pas trop mal de demander aux nouveaux entrants, que je rappelle qu'ils sont nommés à 3 par le président, à 3 par le président du Sénat et à 3 par le président de l'Assemblée, au Conseil constitutionnel de réviser un peu leur De Gaulle avant de rentrer, juste de lire, retrouver même sur l'INA sa conférence de presse du 31 janvier 1964, où il répondait à une question sur qu'est-ce que la Constitution, c'est un esprit, puis les institutions, puis encore une pratique. Et il ajoutait, l'esprit de la Constitution procède de l'idée que le pouvoir n'est pas la chose des partisans, mais qu'il doit procéder du peuple. Alors si ça la fatigue un peu trop d'aller sur l'INA, pas grave, ils vont juste sur la Constitution de 2008. Il faut le rappeler qu'il y a eu une réforme en 2008 de la Constitution. Pourquoi, le rapporteur le disait, l'objectif c'était remettre en cause la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui ces dernières années a restreint notre liberté d'amendement en première lecture. Et ça va devenir la seconde phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution. Donc évidemment que tout ça c'est un coup d'État constitutionnel, mais il ne faut pas oublier que c'est un coup d'État constitutionnel soutenu par le président de la République Emmanuel Macron, qui avait dit... Au lendemain du vote de la loi, je pense qu'il y a des dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution. Traduction, merci mon petit Fabius, de remettre le texte que j'avais validé en Conseil des ministres et que je ne sais pas pourquoi les représentants du peuple sont venus foutre leur grain de sel dedans. J'en veux pas, dégagez, au revoir. C'est aussi beau que la démocratie.
Un dernier mot, Mathieu, ou on passe...
Passons à l'autre.
Allez, passons à la révolte des agriculteurs. Une révolte, vous nous dites, anti-européiste. Vous souhaitiez, Mathieu, pour ce second édito, revenir donc sur cette révolte des agriculteurs qui s'est poursuivie aujourd'hui et sur sa signification politique.
Oui, parce que alors, là, on voit, il y a des propositions. Une partie des agriculteurs peuvent trouver satisfaction, nous dit-on, dans ce... Sur le fond des choses, il faut comprendre ce qui s'est joué non seulement en France, mais ce qui s'est joué à travers l'Europe. Un ami me disait récemment, ça m'a amusé comme formule, quand les agriculteurs se révoltent, c'est que la société tremble dans ses fondements. C'est la catégorie qui ne peut pas se révolter généralement. C'est la catégorie qui ne se révolte qu'en extrême nécessité. On n'est pas devant des grévistes CGT dont la révolte sous le signe de la grève est une manière comme une autre de passer le temps. On n'est pas devant une révolte étudiante, on est devant une révolte qui touche aux profondeurs du pays. Et s'il faut nommer les différentes dimensions de cette révolte, et c'est pour ça que je reviens sur ça, j'essaie de les isoler, de les identifier. Le premier, c'est une révolte anti-bureaucratique. Je pense qu'il faut nommer les choses. La surbureaucratisation d'une société, l'encadrement normatif exagéré, le fait de quadriller intégralement une société par des normes, des règlements et tout ça, ça finit par tuer sa vitalité. Et ça provoque, et ceux qui ressentent ça le plus vivement finissent un jour par se révolter d'une manière ou de l'autre. Donc, nommons cette dimension révolte anti-bureaucratique. C'est les fameuses normes européennes et nationales, mais la dimension européenne, j'y reviendrai. C'est une révolte anti-idéologique au sens où la France, on l'a vu, les agriculteurs français, mais européens plus largement, on leur dit « vous devez décroître, votre agriculture de décroître au nom de la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, la transition climatique écologique. Mais dans les faits, ce qu'on voit, c'est qu'on le sait. Les pays européens ont déjà, à l'échelle du monde, l'Europe est loin d'être celle qui pèse le plus dans la pesanteur climatique de l'humanité, mais le fait est que les efforts ont été faits, il y en a d'autres à faire assurément, mais ils ont globalement été faits. Donc là, on voit la Chine, on voit les États-Unis, on voit le Brésil, on voit partout, et finalement, ce sont les agriculteurs français et européens, on leur dit « faites-en toujours plus comme si vous êtes de trop », et on leur demande un effort qui relève en fait d'une logique de décroissance. C'est une révolte antimondialiste aussi. Antimondialiste, pourquoi? Parce que les traités de libre-échange, qui en eux-mêmes peuvent se tenir s'il y a les clauses miroirs ne sont à peu près jamais respectées. Donc là, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Et on voit que la mondialisation, telle qu'elle se présente à nous, est encore une fois une manière de dépecer encore un peu plus l'Europe de ce qui lui restait. Et encore une fois, on lui demande de se taire parce qu'elle a tellement profité du monde pendant un demi-millénaire qu'il est temps pour elle de payer. Donc, au final, c'est une révolte anti-Union européenne, dans le bon sens du terme. Je n'en connaîtrai pas vraiment de mauvais. Pourquoi? Parce que l'UE se présente aujourd'hui non pas comme le rassemblement des peuples européens. Non. L'Union européenne a usurpé, en fait, son nom. C'est l'européisme. Et l'européisme, c'est pas simplement la ferveur européenne. L'européisme, c'est une idéologie centralisatrice, planificatrice, mondialiste, progressiste et bureaucratique. Et ça, c'est pas une dérive de l'Union européenne. C'est la nature de l'Union européenne. Donc, de ce point de vue, qu'est-ce qu'on voit? C'est une révolte des peuples, en fait, des couches les plus profondes et les plus conservatrices des peuples. Donc, au-delà de la révolte électorale, c'est le fruit, en fait, des tensions engendrées par un ordre politique de plus en plus artificiel, une technostructure qui est de plus en plus autoritaire et étouffante pour les peuples qui s'exprime aujourd'hui par la révolte.
Vous faites prophète de la fin de l'Union européenne?
Je ne suis pas si optimiste. Mais non, je dirais, ce que je dirais plus sérieusement, c'est qu'elle pourrait un jour tomber. Ben, on s'entend, l'idée n'est pas de faire tomber l'organisation politique de l'Europe. Il s'agit simplement de constater que telle qu'elle est devenue depuis, à tout le moins les années 90, mais peut-être même avant, telle qu'elle est devenue, eh bien, elle se présente à nous sous le signe d'une nomenclatura qui ne prétend plus faire valider ses grandes orientations par les peuples. Les peuples sont de trop, la technostructure se suffit à elle-même, et le grand saut fédéral rêvé par certains, le grand saut fédéral n'est pas nécessaire. Certains disent parce que le rêve de l'État européen existe. Je suis persuadé qu'une bonne partie de la Macronie rêve de l'État européen, d'une souveraineté européenne explicite. Mais tout ça existe déjà dans les faits. L'évolution a eu lieu. Le grand saut fédéral a eu lieu sous le signe des petits pas feutrés fédéraux. Et ça a déjà eu lieu. Donc, on connaît la réponse des souverainistes, les vrais, les plus ardents, qui disent qu'il faut sortir de l'Europe, Frexit après Brexit. Mais ça, c'est une erreur à bien des égards, pour une raison toute simple, c'est que d'abord, les Français n'en veulent pas sur le plan formel. Sortir de l'Europe sur le mode du grand saut en arrière, ça ne risque pas d'arriver. Ce qui peut arriver, une sortie programmée n'arrivera pas. Mais ce qui peut arriver, en fait, c'est que si les contradictions se multiplient, si les tensions se multiplient, alors là, viendra un jour où il se peut que ça tangue, ça se décompose, ça se fracture. Et là, de ce point de vue, il faut être préparé si jamais les événements arrivaient. Mais plus encore, je pense qu'il faut redéfinir la pratique politique européenne. Et ça, c'est fondamental. On nous répète sans arrêt, c'est le discours d'une partie de la Macronie, soit vous prenez l'Europe telle qu'elle se présente à nous, soit c'est pas d'Europe du tout. Hein, c'est le discours, vous pouvez pas mettre le primat du droit national sur le droit européen, c'est impossible, parce que si vous faites ça, vous sacrifiez l'Europe. Non, l'Europe est un rapport de force. Et dans le cadre européen, il est possible de faire primer l'État-nation, les intérêts des peuples. Donc il est possible de lutter contre la neutralisation politique de l'État-nation. Ça ne veut pas dire qu'on sort de l'Europe, ça veut simplement dire qu'on sort de la logique européiste fanatique.
Vous avez 1 minute 9, top chrono. Arthur, pour nous donner votre vision de cette révolte des agriculteurs.
On va commencer par Peggy, si vous le voulez bien. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux, chantait-il à propos de ces belles plaines de la Beauce. Un siècle plus tard, les plaines de la Beauce sont recouvertes d'éoliennes, le réservoir est à sec et cette terre qui était hier d'exportation s'est fait becquer par l'Ukraine. Le problème n'est pas nouveau, le constat tout le monde l'a fait, sauf que les politiques n'ont jamais répondu. Les agriculteurs ne gagnent pas assez leur vie, ils travaillent dur, en gros ils nous nourrissent mais ils crèvent la faim. Et en plus d'être faibles, ces revenus sont en partie financé par des subventions européennes, c'est-à-dire notre argent qu'on file à l'Europe. Et vous savez que quand même, il y a des experts européens qui viennent sur les terres agricoles pour vérifier si l'argent est bien employé. Un expert européen qui ne ferait pas la différence entre un radis et une carotte. Donc Gabriel Attal est monté au front, ça change de Elisabeth Borne, évidemment. On pense qu'il a pris la mesure du problème. Ensuite, on a un peu d'expérience, on sait ce qui se passe depuis des décennies et depuis un mandat et demi avec Emmanuel Macron. Le meilleur remède, c'est l'entourloupe, ça permet de mettre les choses sous le tapis. Donc ces petites mesures vont peut-être simplifier la vie des agriculteurs, mais on sait que c'est un modèle entier qu'il faut repenser. Et il y a, vous savez, un truc qui existe dans le monde de la culture qui est très bien une belle idée, l'exception culturelle française. On pourrait faire une exception de l'agricole culturelle française. Mais juste dernier mot, pour le premier protectionnisme, il a apporté de tous les Français, comme le dit mon ami Carlu, il a apporté de carte bleue, donc on peut aussi, nous, à titre individuel, faire des choses.
Allez, fin de cette première partie, une courte pub, et puis dans un instant, Mathieu Bock-Côté, vous recevez Sophie Audugé de SOS Éducation pour parler de l'éducation sexuelle à l'école et du nouveau plan de Gabriel Attal. A tout de suite. La suite de Face à Bock-Côté dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres avec Simon Guilin.
Des agriculteurs du Lot-et-Garonne vont monter à Paris à partir de lundi. Ils entendent bloquer le marché de Rungis, annonce aujourd'hui la coordination rurale du département. Alors que les annonces de Gabriel Attal ont été jugées insuffisantes, eh bien la coordination rurale est le premier syndicat à annoncer un blocage majeur dans la capitale. Les agriculteurs qui ont levé aujourd'hui le barrage emblématique de l'A64, il s'agit du premier blocage d'agriculteurs à avoir été installé il y a 10 jours maintenant. Pour autant, la colère de ces agriculteurs ne faiblit pas. Ils devraient reprendre leur mouvement en début de semaine prochaine. Et puis les images de cette agression avaient fait le tour des réseaux sociaux. C'était le 19 juin dernier à Bordeaux. Un homme de 30 ans avait agressé une grand-mère et sa petite-fille sur le pas de leur porte. Eh bien, on apprend aujourd'hui que l'agresseur a été reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Peu après cette agression, ils avaient été interpellés par la police et internés dans un hôpital psychiatrique, cher Gauthier.
Merci Simon. Bonsoir Sophie Audugé.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de SOS Éducation. Mathieu Bock-Côté, pourquoi avoir choisi d'inviter ce soir Sophie Audugé ?
Parce que thème tourne en boucle dans l'actualité, sous le signe de l'inquiétude, de l'indignation ou chez d'autres de l'enthousiasme, c'est la question de l'éducation sexuelle à l'école. Et c'est une question assez imprécise parce que quand entend-on par là, or SOS Éducation sort dans les prochains jours une étude sur la question de l'éducation sexuelle à l'école, alors aussi bien savoir plus. Sophie Audugé, bonjour.
Bonjour.
Alors, le thème, je l'ai dit, tourne en boucle dans l'actualité depuis un temps. On ne sait pas exactement à quoi cela réfère quand Papendiaï en parle, quand Gabriel Attal en parle. Est-ce qu'on parle de la même éducation sexuelle à l'école? Cela dit, vous publiez un rapport lundi au cœur. Donc, la question que je vous poserai d'abord, tout simplement, quel principe ou quelle philosophie a animé ces dernières années l'éducation sexuelle à l'école?
Alors, en réalité, en 2001, il y a une loi qui va imposer 3 séances d'éducation à la sexualité à tout niveau d'âge par an. Et cette loi ne sera que très peu appliquée. Et puis, des associations militantes, notamment SOS Homophobie, le Planning Familial et SIDAction, vont annoncer, attaquer l'État pour la non-réalisation de ces interventions, en fait, dans les classes. Et là, Papendiaï décide d'en faire la priorité.
Donc, c'est tout récent.
C'est très récent, le fait qu'il y ait une mobilisation militante pour imposer la réalisation de ces séances. En parallèle, dans les écoles, on commence à voir un certain nombre de dérives, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ces interventions sont réalisées souvent par des associations militantes ou avec des infirmières qui ne sont pas formées au développement de l'enfant. Et on se retrouve face à des dérives très graves, des propos tout à fait inadaptés à l'âge des enfants. Ces propos nous sont remontés avec l'association Les Mamans Louves et nous décidons d'écrire à Papendiaï, donc alors ministre de l'Éducation nationale, et on l'informe de dérives très graves qui impactent le développement de l'enfant.
Donnez quelques exemples de ces dérives dont vous parlez.
Alors, pour le plaisir, on peut sucer les testicules du garçon.
À quel âge on en fait ça?
En CM1, en CM2, on a une douzaine de cas qui seront repris dans notre rapport, des cas très concrets hein, parmi les plusieurs dizaines qu'on a reçus. On va avoir une jeune fille qui a été abusée sexuellement quand elle était petite, qui va en avoir un traumatisme très important puisqu'elle va être déficiente et puis elle va être en classe Ulysse et elle va se retrouver en classe de quatrième hein, en cours de SVT. On va l'obliger à mettre un préservatif sur un sexe factice. Elle va refuser et on va l'obliger. Et donc là, pareil, on estime qu'il y a là un non-respect du consentement principe élémentaire qui devrait pourtant faire place intégrante dans cette éducation. Et on écrit à Papendiaï, il y a un certain nombre de courriers, de situations concrètes comme celle que je viens de vous évoquer, tout à fait inappropriées, dangereuses, hein, qui créent des traumatismes graves chez ces enfants. Et mutisme total. aucune réponse. Et puis d'un seul coup, on voit que Pap Ndiaye a sollicité le Conseil supérieur des programmes. Et là, on décide d'écrire au Conseil supérieur des programmes pour demander une audition. On met en place un comité d'experts avec des médecins et on décide d'engager un travail. Ça fait plus de 10 mois. Hein, et on va ensemble réfléchir à comment on peut redonner du sens à cette question-là du point de vue de la science, du point de vue des médecins et d'un collectif de médecins qui vont travailler avec nous pour produire ce rapport de presque 200 pages.
Alors, qui dit éducation sexuelle, plusieurs significations sont possibles. Si on dit, par exemple, d'un côté, apprentissage biologique de base, défense de l'intégrité de l'enfant, apprendre à se protéger contre la pornographie, donc ça pourrait relever de l'éducation sexuelle. Est-ce que c'est de cette lecture, cette philosophie, cette vision dont vous vous inquiétez?
Alors non, si vous voulez, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a toute une manipulation sémantique dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien vu que le problème était quand même important, c'est-à-dire qu'on sexualise précocement les enfants.
C'est-à-dire?
Ça veut dire qu'on considère, dans ce projet d'éducation à la sexualité, que l'enfant naît avec une sexualité. C'est-à-dire qu'il va avoir une sexualité dès qu'il naît, tout simplement parce qu'il a un sexe. Ce qui est aberrant d'un point de vue du développement de l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un sexe que vous avez une sexualité. De la même manière, c'est parce que vous avez des jambes que l'enfant marche quand il naît. Tout ça relève d'un développement cognitif d'abord, ensuite affectif, et puis psychique qui viendra bien plus tard, c'est-à-dire à partir de la puberté, où là, effectivement, on pourrait parler de fonctionnalité de la sexualité qui demande à être accompagnée. Mais ce dont on parle là, entre des enfants de 3 à 4 ans, puisque aujourd'hui ils sont en maternelle à cet âge-là, jusqu'à, on va dire, 12, 13 ans, c'est-à-dire la 5e, la 4e, ce sont des enfants qui sont prépubères, donc qui n'ont pas de sexualité fonctionnelle, et à qui on va parler très tôt de masturbation, de fellation, de sodomie, d'aller se regarder le sexe à la maison, voilà. Et ça, si vous voulez, ce qui est très grave quand on fait ce genre de choses, c'est qu'on le fait, ce qui ne peut pas se faire normalement dans un espace qui est celui de l'école, qui est celui de l'instruction, en niant totalement les connaissances que l'on a pourtant du développement cognitif de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va parler à des enfants qui ne sont pas capables de recevoir ces informations-là, de quelque chose qu'ils vont devoir prendre en eux, c'est-à-dire faire une effraction chez eux, et dont ils n'auront aucune autre solution que soit de la mettre en œuvre, avec tous les risques que ça comporte, soit d'avoir un traumatisme qui aura des conséquences sur leur développement cognitif.
Alors, mais simplement pour savoir exactement de quoi nous parlons, vous évoquez donc des principes, une vision de l'enfant, donc une vision de l'enfant comme être sexuel, dis-je, qui s'ancre dans quoi? Qui s'ancre dans des programmes qui existent dans du gouvernement français?
Alors,
où peut-on retrouver les sources affirmées, théorisées, conceptualisées du programme que vous nous exposez?
Alors, si vous voulez, quand vous vous intéressez à ce sujet-là, c'est-à-dire que vous vous dites, mais où est-ce que cela a démarré? En fait, vous allez pouvoir vous documenter en allant consulter les standards européens pour l'éducation à la sexualité produits par l'OMS en 2013. Et après, vous pouvez remonter le fil de l'histoire. Et là, vous allez vous retrouver dans l'affaire Alfred Kinsey, c'est-à-dire ce savant fou qui va donc défendre une idée de sexualisation infantile, qui défend le principe de la pédophilie, de l'inceste, et qui va installer aux États-Unis, dans les années 60, tout un programme de formation de l'éducation qu'on va appeler positive, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître à l'enfant la capacité d'éprouver du plaisir et à consentir à 4 ans ou à 6 ans.
Mais
et là, c'est très
bien
formel.
À moins que je comprenne mal, vous n'affirmez pas que les programmes portés par le gouvernement français ou européen sont fondés sur la promotion de la pédophilie. C'est parce que je comprends ce que vous dites.
Ah bah, je dis qu'à partir du moment où on considère que l'enfant a une sexualité et qu'il peut consentir, je peux vous donner un exemple?
Allez-y.
Alors, je vais vous donner un exemple, parce que je pense que c'est mieux que tout... voilà. Donc, par exemple, dans ces fameux standards européens d'éducation à la sexualité de l'OMS, hein, à l'âge de 0 à 4 ans, on va considérer que l'enfant est en capacité de refuser si l'expérience sexuelle, sexualité, ou le ressenti n'est pas plaisant. Il devrait être capable, à 0 à 4 ans, de dire oui ou non. De 4 à 6 ans... Il va falloir lui apprendre à utiliser un langage sexuel de manière non agressive. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'enfants de 4 à 6 ans, mais un enfant de 4 à 6 ans qui utilise un langage sexuel, il faut d'urgence s'intéresser à cet enfant et se demander dans quelle mesure il a pu être confronté à des situations traumatiques pour pouvoir utiliser un langage sexuel en plus agressif. Comprendre que les sensations liées à la sexualité, on est toujours entre 4 et 6 ans, c'est écrit.
Vous me citez quel document exactement ici?
Les standards européen pour l'éducation à la sexualité de l'OMS.
Mais qui sont pas ceux dont se réclame le gouvernement français explicitement.
Ah bah, qui sont signés par le gouvernement français, qui est un contributeur de l'OMS, c'est le 12e contributeur financier de l'OMS, et qui sont cités dans un certain nombre de documents officiels, directement ou indirectement. À partir du moment où vous retrouvez, si vous voulez, le principe d'une sexualité infantile et le principe d'une capacité de consentement à un enfant de 4 ans ou 6 ans, évidemment qu'on fait référence à ces travaux-là. Et ça, vous allez retrouver dans toute une multitude de travaux, et notamment en premier desquels, la stratégie de santé sexuelle française 2017-2030, qui est très claire sur le fait qu'elle veut défendre une nouvelle idée de la sexualité, une sexualité positive qui fait partie de la santé et qui permet d'éduquer les enfants dès le plus tôt possible, de manière à ce qu'ils soient capables notamment de s'autodéterminer. Donc là, on va faire le lien avec l'autodétermination, c'est-à-dire l'idéologie du genre.
Alors, on va y arriver. Arthur de Vatrigan.
Juste, vous avez dit en introduction que vous avez fait remonter toutes ces alertes, tous ces rapports que vous avez reçus. Je suppose que vous avez beaucoup de parents qui ont dû faire remonter ces informations au ministère de l'Éducation, qui était Papa Ndiaye à l'époque. Quelle était leur réponse ?
Aucune. Nous avons reçu aucune réponse. Et donc la dernière action, enfin le dernier courrier que nous avons adressé, nous l'avons adressé à Gabriel Attal venant d'être nommé, et nous n'avons reçu aucune réponse. On a considéré que la saisine du Conseil supérieur des programmes pour produire de nouveaux programmes d'éducation à la sexualité était quelque part une réponse indirecte à notre action. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est clairement de demander qu'il y ait une clarification de la position de l'État français sur cette question très simple. Est-ce que l'État français et le ministère de l'Éducation nationale considèrent qu'un enfant de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans est un enfant qui a une sexualité fonctionnelle, et est-ce qu'il est en capacité de consentir ou pas ?
Alors, on arrive à la question de la théorie du genre, l'idéologie du genre dans un instant, mais simplement parce que ce que vous affirmez est lourd, c'est assez brutal en quelque sorte. C'est alors qu'on se comprenne bien. Vous dites, il y a à l'origine de ça la figure de Kinsey, bon, très bien, mais vous distinguez, je devine, les programmes européens, ainsi de suite. Parce que j'insiste vraiment sur ça. Est-ce que vous utilisez vraiment le terme corps sexuel, pédophilie pour parler de ces programmes-là, où vous marquez quand même une distinction claire entre d'un côté la pédophilie qui est un crime atroce et de l'autre côté peut-être une conception de l'éducation sexuelle qui n'est pas la vôtre, mais utiliser le terme pédophilie c'est autre chose.
Alors si vous voulez, soyons clairs, quand vous dites une conception de l'éducation sexuelle qui n'est pas la mienne, moi j'ai pas de conception de l'éducation à la sexualité. Moi je demande à des médecins, à des pédiatres, à des pédopsychiatres de décrire le développement de l'enfant, de décrire ce qu'est un enfant de 4 ans, de 6 ans, de 8 ans, est capable d'apprendre, est capable de comprendre, est capable d'élaborer. Quand ces médecins me disent « Attention, quand vous allez parler à un enfant d'un réel sexuel adulte, comme par exemple des pratiques sexuelles, là, vous parlez de ça à un enfant qui n'est pas capable de recevoir cette information-là. » Or, l'objectif du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui, c'est de faire de l'éducation à la sexualité un enseignement. Sur quelle discipline s'appuie-t-il ? Quand vous enseignez des mathématiques, vous avez un corpus d'enseignement et on va ajuster ce qu'on apprend à l'âge de l'enfant par rapport à ses capacités cognitives. Ce travail-là n'est pas fait là. Donc de quoi on parle ? Comment on mesure le risque qu'on fait prendre à des enfants quand des intervenants, qui sont parfois des militants, viennent dire à des enfants des choses comme « tu peux faire le sexe par les fesses, tu peux sucer ton camarade, c'est comme sucer un bonbon Haribo ». Quelles sont les conséquences de cela sur un enfant ?
Quand vous citez de tels propos, cela dit, ce sont les propos d'associations militantes qui ont été invitées à l'école ?
Alors, ce sont les propos d'enfants sortis de l'école et de parents sidérés de ce qui se passe avec des enfants qui sont en réaction traumatique. Évidemment, quand on refait le fil, on se rend compte que ce sont souvent des associations militantes ou des infirmières, que l'administration ou la direction de l'établissement va prendre du recul en disant « Mais alors, nous, on n'était pas complètement au courant, vous avez raison, c'était déplacé, oui, c'était pas approprié, etc. » Et là, qu'est-ce qu'on fait, nous ? On revient au texte de loi, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul, c'est la circulaire de 2018. Et la circulaire de 2018, effectivement, elle dit « Attention, pas de sexuel stricto sensu en primaire. » Oui, mais sauf que quand il y en a, comment on fait ?
C'est important. Donc vous dites « La circulaire qui existe proscrit le sexuel au primaire. »
Proscrit, normalement, c'est très clair, hein, dit, il n'y a pas de pratique sexuelle stricto sensu présentée. Sauf que ce n'est pas ce qui est fait. Et quand nous, on alerte en disant « attention, ce n'est pas fait », on n'a pas de réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on va voir les chefs d'établissement où on accompagne les parents toujours très calmement en disant « écoutez, ça ne sert à rien d'être agressif, vous posez des questions, vous expliquez qu'il y a eu une erreur, qu'il faut faire une réparation, hein, ce n'est pas neutre. » Et là, on va dire « ah non, mais c'est la loi, c'est obligé. » On demande « est-ce que le personnel pédagogique qui est obligatoire normalement en binôme était là ?»« Ah ben non, il n'était pas là. » Il n'y a aucun système de contrôle. Alors, on parlait de la technocratie depuis une semaine sur l'agriculture, mais on a le même problème dans l'éducation. C'est-à-dire cette technostructure, vous avez une myriade de structures départementales, nationales, etc., qui sont censées organiser les choses, mais il n'y en a pas une qui contrôle, si vous voulez. Et là, les agriculteurs disent, effectivement, on marche sur la tête, ils mettent les panneaux de ville à l'envers. Mais là, c'est la tête des enfants qu'on met à l'envers. Et quand vous alertez sur ce genre de choses... Personne réagit, personne répond. Et il faut aussi dire, et vous avez parlé de la guerre actuellement, la fausse guerre, Stanislas, hein, mais la réalité dans tout cela, c'est que l'école aujourd'hui qui fait ce genre de choses, si vous voulez, c'est stratégie pas de vague. Hein. On n'en parle surtout pas, on fait pression sur les parents. Certains parents d'ailleurs n'osent rien dire parce qu'ils ont peur que finalement ça se retourne contre leur enfant. Je crois que là il y a une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui en France le ministère de l'Éducation nationale, alors que la France vient de décrocher au classement PISA, est-ce que la priorité c'est l'éducation de la sexualité des enfants prépubères, c'est-à-dire avant la cinquième?
Arthur de Batrion.
Donc c'est des propos tenus par des associations au sein d'écoles, des propos qui ont été rapportés par des enfants et des parents. Ces associations, quelles sont-elles? Est-ce que ce sont des directeurs d'école ou directrices d'école qui choisissent les associations, ou ce sont des associations qui sont habilitées par l'État, par le ministère, et donc, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale cautionne que ce soit ces associations qui interviennent dans les écoles?
Alors absolument, les associations doivent normalement avoir un agrément soit du ministère de l'Éducation nationale, soit au niveau national, soit un agrément académique. Mais la vérification n'est pas systématiquement faite. Hein. Il y a des associations qui interviennent. On n'a aucune preuve que l'agrément a été obtenu. Et de toute manière, il y a un voile, si vous voulez, sur ce qui se passe systématiquement. Donc la vraie question, c'est de savoir pourquoi il faut obligatoirement éduquer à la sexualité, parce que la circulaire, ce n'est pas la vie affective et relationnelle, ce n'est pas ça le terme de la circulaire, c'est éducation à la sexualité. Donc pourquoi il faut une circulaire d'éducation à la sexualité pour des enfants de primaire? La vraie question est là. Et c'est ce qu'on attend du Conseil supérieur du programme. Est-ce qu'enfin il va reconnaître que oui, un enfant prépubère n'a pas à être éduqué dans un cadre scolaire, c'est-à-dire dans un cadre où il y a une autorité, dans un contexte de séance où il lui est imposé de parler de sexualité par une personne ayant autorité sur lui?
Il nous reste environ 2 minutes 25, dis-je. La question du genre est une question aussi présente à l'école. Donc, vous parlez d'un côté de l'éducation à la sexualité. De l'autre côté, est-ce qu'on peut voir des dérives aussi autour de où on invite les jeunes, par exemple, à se questionner sur leur identité de genre et tout ça? Ça fait partie de dont vous vous inquiétez?
Si vous voulez, c'est tout le système de l'éducation à la sexualité, d'ailleurs repris par les standards de l'OMS, hein, sont sur ce fondement-là. C'est-à-dire que il n'y a pas de réalité de sexe biologique. Le sexe est un organe qui doit produire un plaisir individuel. Et tout ce qui est activité sexuelle est par principe bonne pour la santé. Voilà. Donc ces préceptes-là, si vous voulez, sont détaillés dans toutes les formes possibles. Voilà. Et donc tous les manuels, aujourd'hui, le moindre manuel de SVT présente le sexe assigné à la naissance, ce qui n'a aucun sens. Personne n'a signé un sexe à la naissance. Sexe, c'est une réalité biologique. Et c'est une réalité biologique. Alors, on commence à le redécouvrir aujourd'hui. Hein. Il y a des articles scientifiques qui commencent à ressortir pour expliquer que, oui, il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. Il y a une différence de sexe. Il y a une différence biologique. Il y a une différence de rapport à la maladie. Nous n'avons pas les mêmes maladies. Nous n'avons pas les mêmes résistances. Donc ça, c'est aujourd'hui en train de revenir par la science. Mais il faut impérativement que l'éducation nationale se repositionne très vite sur... Qu'est-ce que la science, et non pas sur des idéologies mortifères qui font en plus des bénéfices à une industrie qui est celle de la pornographie, bien sûr.
Il nous reste environ une minute, donc juste pour clarifier votre propos, vous me dites si je le comprends bien. D'un côté, il y a les normes européennes, qu'on peut interpréter de différentes manières. De l'autre côté, il y a des associations militantes. De l'autre côté, il y a une circulaire gouvernementale qui dit pas d'éducation, pas de sexe, autrement dit, pour le primaire globalement. Donc j'ai l'impression que vous me présentez ça moins à la manière de l'espèce d'intention forte ou de plan, de guillemets, que vous me présentez un tableau assez anarchique, c'est-à-dire différentes influences s'entrecroisent, s'entrechoquent, et vous demandez, si je comprends bien, moins de congédier telle ou telle politique que de clarifier ce qui se passe. C'est ce que je comprends?
Oui, nous, on demande très clairement que le ministre de l'Éducation nationale prenne une position claire sur... Il n'y a pas de sexualité infantile, il n'y a pas d'éducation, donc il n'y a pas d'éducation à la sexualité pour des enfants prépubères, bien sûr, et de réorienter, là par contre je reprends votre formule, l'éducation dite à la sexualité qui deviendra sans doute l'éducation à la vie affective et relationnelle pour les adolescents qui sont une population à risque aujourd'hui, avec une surexposition à la pornographie, des comportements sexuels très violents. Dû à une surconsommation de pornographie avérée dans un certain nombre d'études.
Merci Sophie Hudugé, merci Arthur de Vatrigan, Mathieu de Bock-Côté, c'était un plaisir.
Au grand plaisir, cher ami.
Dans un instant, c'est l'heure des pros et on va commencer cette heure des pros 2 avec la FNSEA qui appelle à un siège de la capitale. Vous avez bien entendu, c'est tout de suite.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.